Et je suis frappée aussi de voir la variété des projections qu'il peut y avoir sur les poupées russes. Enfin, chacun y met ses significations. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous parler des rythmes et vous dire combien l'enfant, je crois, les rejoint mystérieusement et les ressent jusque dans les fibres les plus intimes de son être, de leur être. Je pense aussi que les enfants aiment les chiffres et qu'ils voient dans les chiffres et les nombres comme une surface projective qui dit les âges de la vie, le temps qui s'écoule, qui marque le début et la fin, la naissance et la mort. Ils y expérimentent aussi la notion d'infini. C'est toujours étonnant quand un enfant un jour découvre que les chiffres n'ont pas de fin. Les nombres n'ont pas de fin. Et donc tout d'un coup on appréhende, on touche un tout petit peu ce mystère de l'infini. Un peu plus grand, ils découvriront qu'en dessous de zéro, il y a encore plein de chiffres. Et que là encore, ça ne se termine pas. Voyez, chose étonnante. Et que bien sûr on va rapprocher des images de l'image des étoiles dans le ciel, cet infini qu'on essaie d'appréhender comme on le peut. Mais voilà, tout ça, ça dit l'âge de la vie, ça dit vieillir, ça dit mourir, ça dit tout cela aussi. Vertige métaphysique que Comté permet d'appréhender à travers la notion de temps. Voilà, comme dénombrer les étoiles dans le ciel le permet à travers la notion d'espace. Voilà, donc... ces rythmes, les enfants vont s'en servir dans les comptines, mais très tard dans leur vie. Pas simplement quand ils sont tout petits. Simplement, ils ne vont pas s'en servir de la même façon. Remarquez, si certaines d'entre vous sont institutrices, remarquez combien dans les cours de récréation, les enfants utilisent les comptines. Et ils vont les utiliser encore là, dans des rythmes, mais tout à fait autres. Je crois que les enfants privilégient aussi dans la cour des jeux, qui sont souvent des jeux, qui les font courir, qui sont des jeux de mouvement, que ce soit chat, cache-cache, voilà, s'attraper d'une manière ou d'une autre, le ballon. Mais les enfants vont sans cesse dans leurs aires de jeu, que ce soit la cour de récréation, le centre de loisirs, les lieux à la colo où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, les enfants vont beaucoup utiliser pour leurs jeux les comptines. Ils vont en avoir besoin pour accompagner les jeux, mais ils vont aussi en avoir besoin pour introduire les jeux. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de tout à fait étonnant, de voir combien les enfants, sans qu'on leur ait jamais appris cela, organisent ce petit rituel qui leur permet d'organiser leur jeu sans que ce soit trop sauvage ou trop violent. Ils pourraient se bagarrer, voyez, non pas du tout, ils s'organisent dans leur petite société d'enfants, ils vont former un cercle, remarquez que c'est un cercle. Là, il y a un leader de jeu qui va prendre la parole et qui va y aller. Plouf, plouf. Et puis, voilà, d'une façon très méthodique et en touchant chacun des partenaires, l'enfant va dérouler la comptine qu'il a choisie. C'est même vrai... Moi, je le vois encore, c'était hier ou avant-hier, avec un enfant dans une séance de thérapie, tout d'un coup, il a le choix entre le feutre bleu et le feutre rouge, et puis il ne sait pas lequel prendre. Et bien, il fait plouf, plouf, et puis voilà, pour savoir lequel des deux il va prendre. Donc, vous voyez, c'est vraiment entré dans toutes leurs habitudes ludiques et leur culture. Mais voyez ce qui est très intéressant dans ce moment où l'on plouffe, hein, c'est que c'est très sérieux. Les enfants sont concentrés, plus que rire là. Hein. Et surtout, on est concentré pour voir s'il n'y a pas trop de triche, hein, bien sûr. Donc on est là pour contrôler celui qui plouffe. Hein. Voilà. Alors, remarquez qu'il y a des tricheries collectives qui sont tout à fait admises, comme prolonger la comptine pour que ça ne tombe pas sur celui sur qui elle aurait dû tomber. Hein. Mais comme le roi et la reine ne sont pas là, ce ne sera donc pas toi. Ou bien chapeau pointu, turlututu, on en rajoute et on en rajoute pour que ça ne tombe pas. Voilà. Ça, ce sont des tricheries collectives tout à fait admises. Hein. Voilà. C'est très étonnant. On voit combien dans ce rituel de la comptine, les enfants de la comptine qu'on appelle souvent d'élimination, les enfants qui sont très astucieux, très judicieux, ont tout de suite compris sur qui il fallait commencer pour que ça ne tombe pas sur eux. C'est-à-dire qu'ils savent toujours sur qui ça va finir. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités d'anticiper mathématiques assez étonnantes. Voilà. Alors, et puis quand on s'est trompé, on redouble doucement sur l'un ou on en saute un autre. Mais ça, c'est tricher. Et là, généralement, le groupe est là pour rectifier. Remarquez encore cette chose étonnante. Si l'utilisation de la comptine était purement une utilisation d'efficacité, à savoir qui va être le chat, les enfants ne diraient la comptine qu'une seule fois, et la comptine serait alors une comptine de désignation, c'est-à-dire qu'on l'a dit une fois et on désigne qui est le chat, c'est toi. Eh bien non, on fait durer le plaisir aussi longtemps qu'il est possible de le faire durer. C'est-à-dire que ce rituel de la comptine, c'est un jeu à part entière. C'est un jeu avant le jeu. Et on y prend un plaisir incroyable. C'est un moment intense. Et donc, on va éliminer. Il y en a un qui est éliminé. Mais celui qui est éliminé, il reste. Il est tout à fait intéressé par ce qui va se passer par la suite. Et puis, il a lui aussi toujours ce rôle de contrôle, pour voir si, quand même. Ça se passe comme ça doit se passer. Voilà, et puis à un moment, il ne va plus en rester que deux, et puis on va savoir qui ça va être. Donc, ces comptines de désignation sont extrêmement riches, et je crois qu'aucun adulte n'a jamais eu à apprendre ceci aux enfants. C'est là qu'on voit combien la collectivité, la communauté des enfants est riche en transmission culturelle. C'est celui qui a un an de plus, ou c'est celui de la classe au-dessus, qui va apprendre évidemment aux autres enfants. Mais cette transmission, elle marche à fond. D'ailleurs, j'oubliais de le dire, les comptines sont parmi tous les genres littéraires, la comptine est celle qui s'invente le plus souvent, le plus encore, et qui se déforme le plus aussi. Parce que les enfants se les transmettent un peu phonétiquement, il n'y a pas d'adulte pour contrôler, récupérer, et donc ça peut donner des grosses déformations aussi dans le texte. Voilà. Bien sûr, dans la cour de récréation ou dans les autres lieux où les enfants se retrouvent pour jouer, les comptines vont faire autre chose qu'introduire le jeu. Elles vont aussi accompagner les jeux. Alors, elles vont accompagner des jeux d'élastique, des jeux de cordes, de balles, de tape-main, tous ces jeux rythmés dont les enfants sont friands, notamment dans la cour. Oui. De ces jeux-là, quand même, il faut dire une chose. Ce sont les filles qui sont de loin les plus concernées. Elles aiment, elles sont très verbales, et elles vont en dire et en redire. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est de voir aussi que dans leurs jeux, les filles ont des jeux souvent beaucoup plus sophistiqués, dont les règles sont très compliquées. Elles adorent ça. Hein. Donc, vous voyez, les jeux d'élastique, c'est très, très compliqué. Et donc, pour savoir où l'on en est, la comptine est là qui indique où on en est dans le jeu. Pareil dans les jeux de tape-main. Alors qu'on dit avec une rapidité, une vélocité la plus grande possible pour épater l'autre, pour que les adultes ne comprennent pas, les enfants sont très fiers de cette capacité qu'ils ont à débiter les choses à un rythme que les adultes ne savent pas faire. Et puis, c'est un petit peu une sorte de gageur, on va plus vite que la voisine. Donc, les enfants vont beaucoup se transmettre aussi tous ces jeux-là. Une chose est intéressante, c'est de voir que beaucoup de comptines qui, peut-être, il y a 10 ou 15 ans, accompagnaient des jeux de balles, accompagnent aujourd'hui des jeux d'élastique ou d'autres choses. C'est-à-dire, c'est assez intéressant de voir aussi là la malléabilité des comptines. Les enfants vont les utiliser parfois à d'autres fins. Voilà. C'est assez intéressant parce que recommencent à se jouer un petit peu les jeux de balles. Je ne sais pas si dans votre région vous les voyez, mais les enfants recommencent à en avoir, et à un moment on était étonnés parce qu'on s'apercevait qu'ils cherchaient des comptines pour les jeux de balles, alors que moi j'en avais eu plein, par exemple, quand j'étais petite, dans ma cour de récréation. Elles sont passées pour accompagner d'autres jeux, et maintenant les enfants en réinventent pour les jeux de balles. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, toutes ces comptines-là vont être à nouveau très rythmées, puisqu'elles doivent accompagner ou le claquement des mains, ou battement de la corde ou voilà, la balle, voilà, hein, c'est cela. Maintenant, je voudrais terminer peut-être en vous parlant aussi des plaisirs de bouche, c'est-à-dire que la comptine n'est pas que du rythme. La comptine, elle est aussi un émerveillement langagier. Elle est du jeu sur le langage, elle est du jeu dans la bouche. Donc, les enfants peuvent l'aimer aussi, la comptine, en laissant franchement vraiment le rythme, qui ne va plus devenir ce qu'il y a de premier, mais pour l'inventivité des mots, pour la poésie, mais aussi cette créativité inouïe. On peut tout faire, tout dire avec les comptines. Il y a une sorte de liberté sur le langage que certains enfants vont utiliser à fond. Freud a écrit « Pour l'homme de la première humanité, le langage est un véritable enchantement. » Eh bien, je crois que pour le petit homme qui entre en humanité, c'est également vrai. Et je pense que la comptine, elle ne fait que reprendre pour l'enfant qui a 3 ans, 6 ans ou 9 ans, cet enchantement que le bébé a pu connaître quand il était dans son berceau, seul, à jouer avec ses pieds et ses mains, et qu'il commençait à écouter les lalations, les gazouillis qu'il savait faire. Il y a ce moment que je trouve exquis, qu'on n'a pas envie d'interrompre, où on voit que l'enfant est si bien avec lui-même, et il produit un tas de sons qui sont très beaux, et on sent qu'il s'écoute dans ces sons-là. C'est certainement sa première créativité sonore, son premier acte de grande créativité. Il se réjouit, il s'amuse, il se délecte avec la beauté de ces sons qu'il émet tout seul. Voilà. Alors, ces sons, bien sûr, il les a puisés dans ce qui pouvait, dans tout ce qui était dit autour de lui. Mais en même temps, il existe une période encore chez le bébé, jusqu'à 6 mois, on dit souvent, 6, 7, 8 mois, où l'enfant, le bébé est capable d'un prisme étonnant de sonorité. Et puis entre 6 et 8, 10, 12 mois, ça va beaucoup se réduire pour ne plus épouser que les sonorités de sa langue maternelle. Il va oublier toutes les autres. Mais il y a un temps où ces gazouillis peuvent recouvrir des tonalités, des sonorités extrêmement différentes, et on comprend qu'il puisse se réjouir de la beauté des sons qu'il produit. Donc, je crois qu'on garde la nostalgie de cette première créativité, voilà. Et puis, peut-être cette créativité toute simple, je veux dire qu'elle se fait avec la bouche, c'est rien du tout. Et je crois, voilà, les enfants aiment les mots dans leur sonorité. Et les comptines offrent aux enfants une substance charnelle. C'est ça la comptine, vivante de la langue, voyez, qui est aussi un vrai plaisir de l'oreille. Les mots constituent la matière première du récit et les enfants s'amusent de ce jeu jubilatoire avec les sons. Ils en aiment les sensations physiques procurées par les assonances, les allitérations. Ils aiment les sonorités qui se frottent, qui se répètent, qui s'accumulent, qui s'entrechoquent, qui sont amusantes dans leur ressemblance. Ils affectionnent les rimes insistantes et très marquées. Ils goûtent les oppositions de rythme, les mots courts et les mots longs, les silences, les césures, les temps où le récit se fait plus fort, puis plus doux, dans des contrastes qui font exister les sons avec beaucoup d'intensité. L'enfant prend plaisir à la rigueur de la forme, au rythme des phrases, à la voix qui les porte. Et puis il connaît aussi la sensation voluptueuse de se laisser emporter par des mots, de dire un texte par cœur, et qui se déroule comme une vraie petite mécanique. Je crois qu'il faut donner aux enfants la possibilité de dire des poèmes. C'est un plaisir inouï pour eux. C'est extraordinaire. En plus, leur mémoire, à ce moment-là, est tellement, tendre qu'ils retiennent absolument tout, mais cette joie du par cœur, cette joie des mots qui se dévident dans leur propre logique, voyez, c'est un très très grand plaisir cela. C'est un premier plaisir poétique.